Nous sommes en bonne voie et par-dessus tout, nous nous sommes tous deux engagés à poursuivre un avenir meilleur fondé sur la paix et la prospérité pour nos peuples.
Les relations des leaders d'Amérique du Nord ont été relancées par le président Joe Biden en 2021 après une pause de 5 ans sous l'administration Trump. Mardi, pour clore la visite, les trois chefs d'État ont tenu une conférence commune lors de laquelle ils ont réaffirmé leur souhait de travailler ensemble.
Voilà, merci beaucoup Dilly et place maintenant à nos invités pour décortiquer tout cela. Ici dans l'état de Maryland, précisément à Silver Spring, nous avons Maître Joseph Fa, avocat, spécialiste de l'immigration. Et à Dallas, dans le Texas, Junior Bompetti, vous êtes activiste, fondateur de Congolese for Trump. Vous résidez au Texas, donc un des États les plus impactés par l'afflux de migrants de ces derniers mois. Et je vais démarrer justement avec vous, Junior. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui a envoyé ces derniers mois des bus remplis de migrants vers des villes dites sanctuaires, n'a pas semblé impressionné par la visite de Biden à la frontière. Finalement, est-ce qu'il n'en fait pas une affaire plutôt politique?
D'abord, de prime abord, merci. Merci Dia pour l'invitation et bonne année à vous. Cette situation de migration à la frontière est vraiment préoccupante. Ça fait à peu près en 2022 seulement, il y a eu plus de 2 millions d'immigrants illégaux qui ont traversé cette frontière. Et sans pour autant avoir une politique du gouvernement fédéral. Donc il y a un désintéressement total de Biden. Comment pouvez-vous expliquer qu'après 2 ans de son pouvoir, il vient à peine de faire un stop? Parce qu'il partait au Mexique, il a fait un stop comme ça à la va-vite, à la frontière. Donc le gouverneur de Texas, heureusement pour nous au Texas, nous avons un bon leadership avec le gouverneur Greg Abbott qui a commencé à envoyer les migrants dans les États démocrates, à New York, à New Jersey et lui-même là-bas à Washington DC, pour que enfin que Biden, le président Biden plus, s'enquérir un peu de la situation. La situation est dramatique, la situation est grave et la situation sanitaire des immigrants, c'est vraiment déplorable. La situation est politique parce qu'il y a un but derrière cela. Et lorsque les démocrates font ça, ils poursuivent un but. Ils veulent transformer l'État de Texas en démocrate.
C'est un peu ce que disent les républicains, mais c'est peut-être la frontière. Alors, maître Joseph Fa, en tant que spécialiste du droit de l'immigration, vous ne craignez pas un peu que des sujets fondamentaux comme le droit d'asile ne soient un peu noyés dans ce qui est en train de devenir une bataille purement politique, en tout cas de l'avis de beaucoup?
Bonjour Monsieur Abdourahmane. Je ne pense pas que le droit d'asile sera noyé. Moi, je pense que les républicains surtout et les démocrates parfois essayent de transformer le droit d'asile comme s'il s'agissait d'une question politique. Le droit d'asile, c'est un droit humanitaire prôné par l'Organisation des Nations Unies et reconnu dans la Charte universelle des droits de l'homme. Donc, pour moi, je pense que le problème n'est pas un problème politique. Même s'il est vrai que d'après la politique intérieure des États-Unis, on essaye de tirer la couverture sur l'immigration pour attirer les électeurs aux prochaines élections, moi je pense plutôt qu'on devait regarder le droit d'asile comme un droit fondamental, comme un droit de l'homme, surtout pour les nations qui ont souscrit à la Charte des Nations Unies, à la Charte universelle des droits de l'homme, comme les États-Unis.
Alors est-ce que c'est pas justement parce qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'immigrer légalement dans des pays comme les États-Unis que finalement la frontière terrestre est un peu prise d'assaut, comme on le voit en ce moment, Maître Fa d'abord?
Donc, je dirais que oui et non, parce que si on va regarder à la base la définition de l'asile, l'objectif de l'asile, ce n'est pas de donner une terre ferme aux gens qui vivent paisiblement dans le pays et qui ont simplement besoin d'améliorer leurs conditions d'existence. Pour cela, il y a l'immigration normale qui a été mise en place. Tenez par exemple, vu la recrudescence des personnes ressortissantes du Venezuela, du Cuba, de Haïti, le gouvernement américain a décidé d'augmenter le nombre de visas légaux octroyés aux familles qui viennent de ces pays, qui ont des possibilités d'avoir une situation légale et normale dans ce pays, de venir. Ils sont autour de 30 000 par mois, 30 000 migrants qui doivent avoir la possibilité d'un changement de statut par mois de façon très normale. Donc, je ne pense pas qu'on est en train d'essayer de mettre une fin au droit d'immigration ou bien à la possibilité d'immigrer rapidement aux États-Unis. Moi, je pense que des moyens normaux et légaux.
D'accord. Alors, Junior, sur cette question disons, du durcissement des lois sur l'immigration, la précédente administration, quand même, a été un grand champion dans cela. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un peu la raison pour laquelle on assiste à cette crise en ce moment à la frontière?
Effectivement, c'est ça. Et c'est la précipitation et la rage qu'a l'administration Biden de saper tout ce que le président Donald Trump a laissé comme legacy ici dans ces pays. Nous avons connu pendant l'administration de Trump ce qu'on appelle Remain in Mexico policy. C'est une loi qui permettait à ce que, comme Maître a dit, le droit de l'asile est garanti, c'est le traité de Genève est garanti. Vous avez le droit de demander l'asile, mais cette loi permettait à ce que vous demandez l'asile, mais vous restez au Mexique. C'était un traité fait par les deux États, les deux nations, les États-Unis et le Mexique. Vous gardez les immigrants temporairement pendant 60 jours maximum, 2 mois, le temps pour que l'administration, l'immigration puisse traiter les dossiers et faire un bon tri. Nous avons besoin de l'immigration choisie, une immigration de qualité et non une immigration où vous avez des criminels, où vous avez des vendeurs de drogue, des drogues.
Mais ça, ce sont des... c'est un peu le discours qu'on entend avec certains hommes politiques, mais il y a quand même la question fondamentale du droit d'asile. Certains peut-être fuient la violence, la pauvreté et peuvent être garantis par le droit d'asile.
Ben oui, le droit d'asile est garanti. Comme Maître a dit, c'est 30 000 migrants qui peuvent résider aux États-Unis régulièrement pendant chaque mois. 30 000 migrants. Et on ne pouvait pas demander au-delà de cela, parce que lorsque les migrants affluent la frontière, il y a des conséquences dans les villes frontalières comme El Paso, les hôpitaux, les écoles, les habitations. Il y a une conséquence humanitaire non imaginable. Personnellement, j'ai été à la frontière et j'ai vu ça de mes propres mains pour venir au secours. Peut-être on pourra parler de ça. Venir au secours des immigrants africains et ailleurs. C'est dramatique. Et
justement, je vais rester avec vous avant de donner la parole à Maître Fa. Cette question de l'immigration, ici on parle beaucoup de ces milliers de migrants, on ne parle pas assez des migrants africains qui empruntent maintenant cette route pour essayer d'entrer aux États-Unis. Peut-être Maître Fa d'abord, est-ce que vous pensez que la question des migrants africains qui passent par cette frontière attire suffisamment l'attention des autorités?
Oui, tout à fait, Monsieur Abderrahmane. Je pense effectivement que, sur les 5 dernières années, on a observé une montée très très puissante des ressortissants des pays africains aux frontières du Mexique. Et ça pose un sérieux problème. Mais il ne s'agit pas simplement de regarder sur la ligne pour savoir le pays d'où vous venez. Parce que lorsqu'on va regarder le pourcentage des Africains sur la côte du Mexique, bien ceux qui sont en train d'entrer aux frontières, ça ne représente rien par rapport aux pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, de Haïti et autres. Donc pour moi, je ne pense pas que la question est simplement celle des Africains, mais la question est une question d'un droit humanitaire. Et je voudrais simplement, avant de chuter, répondre à quelque chose que mon Junior a dit. Et je suis un peu gêné chaque fois qu'on identifie les migrants comme associés au crime. Je suis un peu gêné comme si c'était... Quand on dit que les migrants, à cause des migrants, il y a un taux de criminalité qui augmente. Allons regarder sur les nombreuses fusillades qu'il y a partout dans les États-Unis. Et parmi les fusillades de masse, donnez-nous une seule de ces fusillades qui a été faite par quelqu'un qui a un statut migratoire illégal ici.
Intéressante. Alors, je vais revenir à cette question des migrants africains. Disons, Junior, vous avez été à la frontière et parlez-nous un peu de ces migrants africains. Quelles sont leurs conditions? Comment est-ce qu'on s'occupe d'eux?
Enfin, si vous me permettez, je vais peut-être répondre à Maître pour ne pas oublier. Est-ce que Maître, vous devez savoir, il y a les faits qui ne trompent pas. Il y a plus de 50 millions de drogues de fentanyl qui est arrêté à la frontière. Il y a plus de 75 000 Américains qui sont morts d'overdose. des flux de drogue à la frontière, ça, ce sont des conséquences que vous ne pouvez pas réfuter. Ce sont des faits qui sont
sacrés. Mais ce ne sont pas forcément le fait de migrants. Il y a aussi beaucoup d'Américains qui sont impliqués dans ce trafic, même s'ils traversent la frontière.
Ils sont arrêtés. Ces drogues-là sont arrêtées à la frontière, traversées, ramenées par les migrants.
Si vous voulez répondre un peu à la question sur la situation des migrants africains, peut-être qu'on peut...
La situation des immigrants africains particulièrement est dramatique. J'étais personnellement là-bas, j'ai vu quelques compatriotes congolais et africains en général. On fait des vidéos, des cris d'alarme parce qu'ils manquaient de tout. Ils n'avaient pas à manger et tout ça. Alors j'ai mobilisé la communauté. Nous avons ramené à peu près 3 000 $. Et arrivé à la frontière, ils étaient reçus d'abord par la fondation Caritas qui leur donnait un logement plus un petit déjeuner. C'est tout ce qu'ils avaient. Alors les gens bourrés de faim, nous avons d'abord donné à manger à tous les migrants, non seulement africains mais à tout le monde. Et deuxièmement, la deuxième difficulté que nous avons, c'est qu'une fois vous avez passé les frontières, il faut aller dans les familles d'accueil le temps que votre dossier soit en traitement. D'accord. Alors, il y avait la difficulté des transports. Ceux qui avaient des familles d'accueil, nous avons pourvu avec le moyen financier à la Fondation catholique Caritas pour évacuer ces derniers. Et il y avait encore une autre partie des migrants qui n'avaient pas des familles d'accueil. Et
d'accord, là, maître, nous avons contacté des familles. On va aller un peu plus vite. Maître Fa, avant d'aller aux commentaires Facebook, est-ce que vous recevez de plus en plus de migrants qui ont vécu cette expérience d'être passés à la frontière terrestre?
Au quotidien. C'est le quotidien de notre cabinet. On a des avocats qui sont spécialisés pour les affaires des frontières, qui font, moi personnellement, j'ai fait plusieurs frontières dans les centres de détention. À l'époque, à Tacoma, Washington, à El Paso, Texas, on en fait tous les jours. Mais la question que j'aimerais poser à le junior, c'est celle de savoir finalement quelle est sa position, parce que si on est en train de penser que la politique de Biden de demander aux gens de rester avec, c'est encore que ce n'est même pas sa position, c'est la décision de la Cour suprême, parce que Biden est contre cette position, mais on doit respecter les lois qui sont institutionnelles. Si la position du gouvernement est que les gens doivent venir à l'intérieur des États-Unis pour faire prévoir là le demande d'asile, il y a une procédure d'expédition qui est en place pour étudier rapidement ce dossier. Et si vous n'êtes pas éligible, on vous fait retourner. Mais la politique de Donald Trump, qui est le titre 42, c'est rester en Mexique jusqu'à ce qu'on vous ait reçu. Si on met en place cette politique, est-ce que votre organisation sera capable de fonctionner?
Alors, 30 secondes, Junior, il faut qu'on aille aux commentaires.
Mais maître, c'est une belle question, c'est que cette politique a fonctionné. Lorsque vous acceptez les migrants ici aux États-Unis d'entrer avec votre politique catch and release, et quelle a été la suite, quelle a été la solution? Vous voyez, alors, quelles sont les infrastructures lorsque vous recevez ces gens-là? Ils dorment où? Est-ce que vous avez déjà visité ici à l'Est?
J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ce débat.
Donc, Donald Trump a réussi avec sa politique.
Alors, quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore est en Djamena. Il nous dit, cet afflux de migrants à la frontière donc américaine avec le Mexique s'explique par le fait que tout le bloc sud-américain considère les États-Unis comme un véritable Eldorado où les conditions de vie sont meilleures. Pour remédier à cela, il est souhaitable que les États-Unis investissent beaucoup plus dans les pays concernés en créant de la main-d'œuvre, en renforçant le système sécuritaire et la bonne gouvernance dans ces pays. Et puis Alphonse Mbouaki, il est à Kinshasa, il écrit « La Cour suprême a prolongé une mesure anti-immigration prise pendant la pandémie. Elle doit revoir sa copie, à mon avis, à l'heure où quelques 2,3 millions d'arrestations de migrants ont été prises en 2022. Joe Biden doit montrer sa fermeté s'il décide de se représenter pour un second mandat. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
Mbotendeko Elisango, Mbotenabino Banso, Mbotenabino Kolanda, Saona Lingala, à la voix de l'Amérique, Kuto, Washington DC.
C'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique.
Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons deux éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel.
politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangoya Mukidi Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala.
Retrouvé pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Silver Spring dans l'état de Maryland, maître Joseph Fah, avocat spécialiste de l'immigration, et à Dallas Junior Bonpetit, résident du Texas, un des états les plus impactés par l'afflux de migrants de ces derniers mois. Alors, maître Fah, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a critiqué cette semaine ces nouvelles mesures qui facilitent un peu l'expulsion des nouveaux migrants arrivés à la frontière, estimant qu'elles pourraient porter atteinte aux droits humains fondamentaux. Mais quand on voit un peu ce qui se passe à El Paso avec des migrants qui dorment à la Belle Étoile, vous comprenez un peu la position du gouvernement qui cherche à limiter leur afflux?
Bien évidemment, M. Abdourahman, je tiens à préciser que je ne suis pas pour une expulsion, ou bien je ne suis pas pour l'abandon des demandeurs d'asile dans les rues. Je pense que la procédure doit être mise en place pour accompagner ceux qui sont en train de demander l'asile, que des mesures d'accompagnement soient mises en place pour accueillir ceux qui parviennent à avoir accès sur les territoires américains. Lorsqu'ils ne sont pas sur le territoire américain, ils sont sur le territoire du Mexique, à la frontière. Et donc, le gouvernement mexicain également devrait prendre des mesures d'accompagnement, non seulement pour accueillir, mais pour préparer un chemin de transition à ceux-là qui sont en train de demander accès aux États-Unis. Il faudrait également qu'on pose la question de savoir pourquoi est-ce que le Mexique, s'ils sont demandeurs d'asile, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas l'asile au Mexique? Pourquoi est-ce que le Mexique n'est pas autant indexé dans cette affaire que les États-Unis? Le Mexique est un pays, comme les États-Unis, est un pays souverain.
Vous pensez que les autorités mexicaines ferment un peu les yeux sur cette question pour d'en faire une arme?
Je le pense vivement. Même s'il est vrai qu'en termes de mesures sécuritaires pour ceux qui sont en train de fuir leur pays pour des questions de persécution politique, le Mexique est moins sécuritaire que les États-Unis. Il n'en demeure pas moins que le Mexique est un pays où les gens ont la possibilité de demander l'asile. Et que le Mexique ne favorise pas l'accès à l'asile comme le font les États-Unis. En termes de procès équitable, en termes de procès juste, vous avez plus de chances d'être écouté aux États-Unis qu'au Mexique. Ça, je le reconnais. Mais en termes de mesures transitaires pour accueillir de façon temporaire et transitionner ces migrants vers les États-Unis, le Mexique se doit de faire quelque chose là-dessus.
Alors, Junior, sur cette question, le Mexique devrait faire plus?
Tout à fait. Je suis d'accord que les migrants qui sont déjà à l'intérieur de la frontière des États-Unis doivent rester parce que ils viennent ici pour des situations meilleures, pour un avenir meilleur. Je suis tout à fait d'accord. C'est humanitaire, n'est pas les expulser. De l'autre côté, c'est que ce que le Mexique fait, c'est une politique. Vous savez, historiquement parlant, l'État de Texas appartenait au Mexique après les guerres et tout ça. Les États-Unis ont gagné cet État. Ils veulent un peu donner avec plus de migrants là-bas et avoir une certaine influence parce qu'il y a la langue et tout ça. Alors, là où les bas blessent, c'est le leadership. Et la vision des républicains au pouvoir a imposé au Mexique de garder les migrants parce que il y a une chose et de demander au Mexique de garder les migrants, mais aussi il faut soutenir ces derniers financièrement pour accueillir ces gens-là. Alors, le président Trump, l'administration Trump, donnait de l'argent au Mexique pour garder les migrants. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas demander aux gens de garder les migrants, de protéger la frontière sans pour autant leur doter des moyens nécessaires.
Alors il y a justement un téléspectateur dans les commentaires Facebook, Maître Fah, qui évoquait cette question de l'investissement dans ces pays pour lutter contre la mauvaise gouvernance, aider ces pays à se développer davantage. Vous pensez que c'est aussi un début de solution, un des aspects qu'il faut peut-être explorer?
Ben, tout à fait. Moi, c'est pas la première fois que je le dis. Je pense que résoudre le problème de l'asile, c'est un problème qui engage, à mon avis, le Conseil de sécurité des Nations Unies et les Nations Unies en général. Si vous rentrez, vous regardez à la base la raison pour laquelle les gens partent de leur pays pour trouver un peu de sécurité ailleurs, c'est certainement c'est plus des questions politiques qu'autre chose. Peu sont ceux qui partent des pays, de leur pays parce qu'ils ont faim. Les questions de famine sont résolues sur place. Mais ceux qui partent généralement, c'est parce qu'ils sont persécutés par le pouvoir militaire, c'est parce qu'ils sont persécutés par le pays d'origine. Et les États-Unis, en tant que puissance internationale, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, les Nations Unies elles-mêmes peuvent dicter des politiques, bien diriger des politiques dans les pays où les gens sont en train de partir pour changer la condition humanitaire dans ce pays. Et le problème de l'asile sera résolu. Qu'on arrête d'autoriser des gens à rester 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, et on verra qu'il y a une alternance dans les politiques de gestion, on verra qu'il y a un changement dans le traitement des droits, on verra que la liberté d'expression, qui est la raison pour laquelle plusieurs fuient leur pays, devrait être observée dans ce pays-là, et ce sera le début d'un changement, et ce sera le début d'une fin pour les migrations, bien les mouvements migratoires vers les États-Unis et l'Europe.
D'accord. Et un dernier tour de table. Junior, quelle politique d'immigration pour les États-Unis, surtout en perspective des élections de 2024? C'est sûrement un sujet qui sera sur la table.
Alors, merci pour cette question. C'est que nous sommes en train de nous préparer au niveau républicain, aux primaires, au grand retour du président Donald Trump. Pour un bon leadership, remettre les respects des États-Unis au Conseil des Nations, avec tout ce qui se passe, le flux migratoire a commencé déjà en 2020, lorsque Biden a gagné les élections. Ils ont vu qu'il y a un leadership faible, la guerre en Ukraine, l'argent du contribuable américain, plus de 100 milliards investis là-bas au lieu d'investir ici localement, avec l'inflation et la récession qui se pointe à l'horizon. 2024, 2023, on se prépare, 2024, le grand retour des républicains pour redonner un peu... remettre les États-Unis sur les rails. Et la situation de l'immigration, c'est que nous avons déjà trouvé la solution. Nous allons remettre la même politique humaine en Mexico, policy, et puis nous allons doter ces pays-là de moyens nécessaires pour accueillir ces migrants momentanément pendant que leurs dossiers seront traités ici au pays.
Maître Fall, la question de l'immigration et les élections de 2024, comment est-ce que vous voyez tout cela?
Comme à chaque tour d'élection, la question de l'immigration est toujours au centre des débats. Et je pense que les démocrates devraient faire très attention pour les élections de 2024, parce que non seulement on assure des territoires américains, la plupart des électeurs sont des immigrés ou alors ont une relation avec des familles immigrantes. Ça peut jouer en faveur des républicains comme ça peut jouer en faveur des démocrates. Mais je voudrais pas simplement qu'on regarde la question de l'immigration comme un atout politique. C'est vrai que c'est un atout politique, mais avant tout c'est un problème fondamental qui ne devrait pas dépendre si vous êtes républicain ou démocrate, ou bien si vous êtes de la gauche ou de la droite. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet.
Vous insistez vraiment sur l'aspect droits humains.
Beaucoup.
Alors, en tout cas, merci à tous les deux. Peut-être juste nous rappeler, peut-être Maître Fah, avant de terminer un peu, comment est-ce que, en quelques secondes, vous voyez un peu la politique de l'immigration américaine allant de là, en apprenant ce qui se passe tous à la frontière?
Moi, je vais d'abord dire que la procédure que le président Biden est en train de mettre sur place, à mon avis, est salutaire, parce qu'il s'agit plus de renforcer ou bien alors de reconnaître l'existence des droits humains. Par exemple, si vous êtes en train de fuir les persécutions de votre pays et que vous arrivez, vous êtes bloqué aux frontières des États-Unis et que vous êtes attrapé à ces frontières, vous ne pouvez pas demander l'asile, on vous fait rapatrier dans votre pays. D'accord. Vous pouvez, je ne sais pas, mais alors qu'avec... Si on avait enlevé Title 42, on peut entrer immédiatement aux États-Unis et demander l'asile.
Voilà, merci beaucoup. Merci, maître. Fin de ce Washington Forum. Merci à mes deux invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur toutes nos plateformes digitales. Un grand merci à l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés.